Chapitre 2. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 1 à 5. Voilà ce que dit l'apôtre sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous vivons dans un âge de communication, c'est ce qu'on nous dit. Notre génération croit beaucoup dans la puissance de l'art de la parole, dans le pouvoir de la communication humaine d'influer sur les hommes et de les incliner dans un sens ou l'autre. C'est toute la politique aujourd'hui est bâtie là-dessus. C'est l'art de la parole. Mais non seulement la politique, le commerce est complètement orienté par cette confiance dans la persuasion humaine de vous convaincre que ce produit est le meilleur et que vous en avez besoin. Mais non seulement la politique et le commerce, on pourrait parler de bien d'autres domaines. On peut penser à Hollywood et sa manière de communiquer et de faire passer un message, n'est-ce pas, par cette... c'est quoi, le septième art? Je ne sais pas. Le septième art? Ouais. Nous ne sommes pas les premiers à mettre tant de confiance dans le pouvoir de la parole, de la communication humaine. À l'époque de Paul, c'était vraiment le cas à Corinthe. Vous vous rappelez, nous avons dit que c'est l'époque des rhéteurs. C'est des grands orateurs grecs dont tout le métier est simplement de passer de ville en ville et faire des speeches. Et nous avons vu que les historiens ont trouvé les écrits qui nous disent que quand ils venaient dans une ville et ils donnaient leur beau discours, les gens criaient de la foule « Une parole divine !» Il parle comme un dieu !» Et ces rhéteurs avaient une immense influence. C'était un peu un mélange d'oratoire et de philosophie. Des pensées bien ficelées, la logique, la raison humaine et l'art de parler. Et l'église de Corinthe est prise dans le piège. Et partout dans les quatre chapitres au début de cet épître, Paul essaie de casser cette confiance de cette église dans la sagesse humaine. Et vous avez vu dans le chapitre 1 et verset 17 car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser mais pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine ou vidée de sa puissance. Et nous avons vu que l'évangile peut être vidé de sa puissance. C'est pas un problème uniquement à Corinthe, c'est un problème dans l'église évangélique aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises évangéliques aujourd'hui qui sont en train de, et je vous dis cela parce que nous sommes faits de la même motte. D'accord? C'est nous qui sommes concernés, mais les églises évangéliques partout dans le monde qui, souvent inconsciemment, vident l'évangile de sa puissance en tentant de gagner les gens, en partie au moins, par la raison humaine, l'éloquence humaine, la parole humaine. Et donc, si jamais nous allons voir l'évangile venir avec puissance dans notre pays encore, il faut que nous revenions à la manière apostolique de communiquer l'évangile. Et c'est ce que nous voulons comprendre aujourd'hui. Et donc, nous allons voir dans ce passage que le but réduit de Paul, le message réduit de Paul, la force réduite de Paul, le style réduit de Paul. Nous allons voir que donc Paul décrit sa manière de communiquer l'évangile et il dit c'est cette manière qui est essentielle si la puissance de Dieu va être dans le message. Et ça va nous étonner complètement parce que ça va à l'encontre de tout ce que pense le monde et notre cœur inclin à être charnel. Ok, on y va. Le but réduit de Paul. Nous lisons le verset 5. Donc, je commence à la fin du passage. Excusez-moi, mais je crois qu'il vaut mieux faire comme ça. Paul explique sa manière de venir à Corinthe. Et il dit, « Afin, je suis venu avec, je n'ai pas annoncé l'évangile avec la sagesse des âmes, etc. Afin, verset 5, « Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Voilà son but. Il rejette un but afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Son but est réduit. Notre but, votre but en tant que témoin, si vous êtes prédicateur ou simple témoin chrétien, votre but c'est quoi ? Vous voulez, en parlant avec les gens de Christ, vous voulez les amener à la foi salvatrice, à croire dans leur cœur, à croire vraiment dans les faits de l'Évangile, que Dieu s'est fait homme, qui s'est fait pendre sur une croix chargée de leurs péchés. Vous voulez leur communiquer l'Évangile de manière à ce qu'ils soient tellement convaincus que cela s'est passé, que pour eux, ça change tout ce qu'ils pensent au sujet de ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ça, c'est le but. Vous ne voulez pas amener les gens à un simple assentiment intellectuel, oui, Jésus est sauveur et ça ne change rien dans leur manière de vivre. Vous voulez une foi véritable. Vous voulez communiquer l'évangile de manière à ce qu'il soit amené par Dieu à une foi qui reçoit Jésus-Christ, mais reçoit Jésus-Christ pour toujours et véritablement comme leur sauveur et leur Seigneur. L'agneau de Dieu qui a ôté mes péchés. Oh, combien vous voulez que les gens font ça, n'est-ce pas? Vous voulez les amener à une foi qui est tellement véritable, tellement permanente, que Dieu lui-même voit cette foi, dont il est l'auteur, il voit cette foi et il l'agrée. Cette foi, donc, est une foi qui met cette personne en contact avec Dieu, il devient fils de Dieu parce que cette foi est tellement liant, unissant. Son cœur est purifié et il rentre dans une vie de paix avec Dieu et de joie. Tout cela découle du fait que quelqu'un est amené à vraiment croire en Jésus-Christ. En d'autres termes, votre but lorsque vous faites part de l'évangile, c'est de produire un miracle. Je viens de vous décrire un miracle, n'est-ce pas? Pensez à votre parents ou votre voisin ou votre ami qui n'est pas encore chrétien, qui ne croit pas du tout, et pensez à lui, venu à une telle foi que je viens de vous décrire. Votre but, c'est qu'il y ait un miracle, mais vraiment impossible par des moyens humains. Mais qui est fondée sur une action de la puissance de Dieu. Si Dieu ne s'en mêle pas, vous êtes cuit, parce que vous ne pouvez pas produire cette foi-là. Maintenant, malheureusement, le but réduit de Paul, c'était ça son but. Il voulait produire une foi qui ne peut venir que de la puissance de Dieu. Mais nous, je parle pour moi, on est tenté de produire une foi qui... On n'est même pas conscient qu'on est en train de faire ça. On veut parfois adopter un autre but. Produire une foi qui peut être produite par la sagesse et les arguments humains. Et cela est constamment fait partout dans le monde, dans les églises chrétiennes et par nous aussi parfois. Vous savez qu'il y a même des techniques humaines que certaines églises utilisent pour tirer le filet. Un pasteur m'a appelé de Lyon un jour et je ne sais pas comment il avait entendu parler de moi, mais on parlait de comment faire part de l'évangile. Et il savait que je croyais que Dieu est souverain et que Dieu amène à lui qui il veut quand il veut. Ce n'est pas à moi. Et que personne ne peut venir à Christ sauf si le Père l'attire. Et en parlant, il a compris que je n'utilise aucune technique humaine pour tirer le filet. Je ne fais pas signer une carte. Je ne fais pas lever la main, je ne fais pas venir devant, je ne demande aucun geste physique parce qu'on peut faire un geste physique sans que le cœur soit véritablement né de nouveau. Je ne donne même pas une prière de conversion à prier parce que quelqu'un peut prier cette prière et se convaincre qu'il a fait ce que le pasteur a dit, donc je dois être converti. Je ne donne rien, j'explique la foi et la repentance, le retour à Dieu, et je laisse le reste au Seigneur. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Mais David, si tu n'as pas de carte, tu n'as pas d'appel devant, tu n'as pas de prière de pécheur à donner, comment est-ce que tu tires le filet? J'ai dit, le Saint-Esprit tire le filet. Mais vous voyez, nous voulons un moyen humain dont nous disposons, que nous pouvons donner à cette personne et dire, fais-le! Fais-le! Voilà. Et donc, nous voulons nous reposer sur quelque chose qui peut se passer sans que Dieu s'en mêle avec une puissance carrément divine. Paul ne veut pas ça. Il dit, mon but, afin que votre foi ne soit pas fondée sur une sagesse ou une éloquence humaine. Chers amis, c'est difficile, n'est-ce pas? Mais nous devons faire part de l'évangile de manière à ce que si quelqu'un se convertit, il n'y a aucune manière d'expliquer ça. Parce qu'on ne peut pas l'expliquer par ma manière d'avoir dit l'évangile. Ok. Comment est-ce que nous pouvons être comme Paul et adopter ce but réduit et pas le but plus large de produire les conversions fausses par les ressources humaines? Et la réponse que nous allons voir avec les trois autres points, c'est que nous ne pouvons partager l'évangile avec les autres de manière apostolique que si nous sommes dépouillés, vraiment dépouillés de toute confiance dans les ressources humaines. Et cela n'arrive que par une décision, une détermination lucide et consciente. Regardez avec moi le verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer l'évangile, car je n'ai jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Une autre version dit, car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, est-ce que vous avez cette décision? Est-ce que c'est tranché, c'est net, c'est clair pour vous que je ne vais pas essayer d'amener les gens au Seigneur par la force de ma personnalité? Deuxième point, nous avons vu le but réduit de Paul, maintenant le message réduit de Paul. Je relis le verset 2. Oui, il faudrait que je vous dise le verset 1 aussi, excusez-moi. On relit ça. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pouvez-vous voir qu'il y a une réduction consciente du message? Le message réduit de Paul. J'ai décidé de ne rien savoir parmi vous dans ma prédication, dans le contexte de ma prédication. Quand je parle avec mon ami, quand tu parles avec ton ami, ton parent, et tu veux expliquer le salut, qu'est-ce que tu lui apportes? Je n'ai aucun intérêt en quoi que ce soit, sauf Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce qu'il n'y a aucun salut pour cette personne en dehors de lui et du calvaire. Tout s'est joué là, n'est-ce pas? Nous savons. Tu es là aujourd'hui, tu es sauvé, n'est-ce pas? Tu as le pardon, tu as la justification, tu es adopté comme un enfant de Dieu, tu as la vie éternelle, tu es destiné à la gloire à venir. D'où vient tout cela? D'une seule source, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tout a été obtenu par lui dans sa crucifixion et rien ne vient d'ailleurs. C'est assez simple, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Afin d'arriver à Jésus-Christ, lorsque nous faisons part de l'évangile à quelqu'un, nous devons parfois commencer en parlant du Dieu de la création. Il y a un Dieu avant d'arriver à Jésus-Christ. Il vous a fait pour lui-même. Vous vous êtes détourné de lui. Mais tout cela est expliqué dans le contexte du message central qui est ce Dieu créateur a envoyé son fils pour vous arracher du péché. Voilà comment il a fait. Il n'aurait pas pu le faire autrement. Je connais quelqu'un qui est en train de... Un nouveau chrétien, il est en train de faire part de l'évangile à certains de ses amis et il m'a confié qu'il leur parle depuis des semaines et pour le moment, il n'est pas arrivé à Jésus. Et j'essaie de lui dire que là, il faut que tu arrives à Jésus-Christ. On peut passer des millénaires, mais lorsqu'on n'arrive pas au fait, à la réalité de Jésus-Christ, on n'est pas encore dans l'évangile. Remarquez que Paul dit Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans ce message réduit, il y a deux aspects. Qui sont lesquels? La personne et l'œuvre. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et vous devez annoncer à la personne qui est Jésus-Christ, sa divinité, son humanité, et vous devez annoncer son œuvre. Maintenant, quand Paul dit « Je ne voulais prêcher que ce message réduit de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié », il nous alerte que je ne vais pas être comme les philosophes grecs qui amassent, qui alignent des idées sans fin, des idées philosophiques Et si ça c'est vrai, alors ceci est vrai, c'est très philosophiquement, mais nous pouvons parfois utiliser des arguments, mais la puissance, ce qui va sauver la personne n'est pas là-dedans. Ce qui va sauver la personne n'est pas, écoutez bien, la communication des idées, mais l'annoncement d'une nouvelle. Et c'est là que nous revenons à la fin du verset 1. Regardez bien la fin du verset 1. Pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Savez-vous ce que c'est que le témoignage de Dieu? Pourquoi il utilise le mot témoignage? C'est quoi un témoignage? Un témoignage, c'est quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas une idée, c'est un fait, c'est un événement. C'est un événement qui vous a sauvé. Ce n'est pas une idée qui vous a sauvé. N'allez pas dire à mon sauveur que c'était une idée quand il était sur la croix. C'est un événement. Dieu s'est fait homme. Et il a été pendu sur une croix, la colère de Dieu venant sur lui parce qu'il s'est chargé comme un substitut de vos péchés. C'est l'événement qui vous sauve. Et la puissance du message est de raconter ce qui s'est passé dans ce bas monde. Voilà. C'est vrai, n'est-ce pas, que parfois nous pouvons tomber dans le piège de vouloir annoncer une doctrine, la doctrine du salut par la grâce et non pas par les œuvres. C'est l'évangile, presque. C'est une notion. C'est une notion. Mais annoncer juste cette notion sans mettre l'accent sur l'événement, vous enlevez vraiment l'essentiel de l'évangile. Okay? C'est une grâce qui soit là sur cette croix. Mais l'important, c'est qu'il soit là, qu'il ait été là. Je ne peux pas aller plus loin. Oui, bien sûr, vous pouvez répondre à des questions qui peuvent venir. Vous pouvez parfois utiliser la logique et les arguments humains, nous le voyons dans la prédication de Paul en Actes chapitre 17 à Athènes. Mais vous allez voir, si vous lisez bien ce chapitre, avant et après de répondre aux questions, on dit qu'il était en train de prêcher Jésus et la résurrection. D'accord? Que son message était quelque chose qui s'est passé. Dieu a fait ceci pour vous, venez donc puisqu'il a fait. D'accord? Ok. Maintenant, troisièmement, la force réduite de Paul. La force réduite de Paul, nous le voyons dans le verset 3 que je vous lis. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Les orateurs grecs venaient de ville en ville avec une aura, dans une condition de force et de grande confiance de soi. Très sûr d'eux-mêmes, très sûr de leurs paroles. Une partie de leurs prestations, c'était leur, leur suffisance. Leur suffisance, c'est le mot. Mais Paul est en train de dire, je suis exactement le contraire de ces personnes. Maintenant, aujourd'hui, je peux vous montrer des chaînes de télévision où vous allez voir des soi-disant prédicateurs chrétiens qui sont exactement comme ces orateurs grecs. Ils viennent et une partie de leur ministère, de ce qu'ils sont, c'est cette suffisance, c'est cette éloquence et les gens les suivent. Les gens sont vraiment épatés. Par quoi? Christ crucifié? Non, par le bonhomme. N'est-ce pas? Et nous pouvons être tentés, dans une moindre mesure, de penser que nous devons avoir un certain pouvoir personnel. Mais Paul dit, rappelez-vous comment je suis devenu. Quand j'ai débarqué à Corinthe, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et tremblement. J'étais tout sauf impressionnant. Et c'est ça qui est le miracle, l'Église s'est fondée. Les gens sont venus, ils ont cru que Dieu a fait cela en Jésus-Christ. Leur vie était changée Et on ne pouvait pas l'expliquer par ma manière parce que je suis venu avec, auprès de vous, d'abord dans un état de faiblesse et deuxièmement dans un état de crainte et tremblement. D'abord, réfléchissons sur la faiblesse. Qu'est-ce que Paul veut dire? Probablement tout ce qui contribue à son sens, au sens du fait que je ne suis pas adéquat. Je ne peux pas faire ça. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, peut aussi être une allusion à son état physique. Nous savons qu'il avait une écharpe dans la chair, sa vulnérabilité à la persécution, sa pauvreté, le fait qu'il soit obligé de travailler avec les mains. Quand Paul parle ailleurs de sa faiblesse, il inclut toutes ces choses. Écoutez bien, nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, voilà, faiblesse. Vous êtes forts, vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. Le nous, c'est les apôtres. Nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errant ça et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, ainsi de suite. Donc il est venu comme ça, pas bien habillé, fatigué. Physiquement maltraité, difficile à trouver un logement, et il connaît personne à Corinthe, il débarque et il dit, on y va. C'est absolument merveilleux, n'est-ce pas? Et lorsque vous avez peur, vous pensez inadéquat, au lieu de fermer la bouche comme vous faites parfois, vous dites, ah là je suis dans la meilleure position, parce que là je vais me confier mais complètement au Seigneur. Et maintenant, cet état de crainte et tremblement, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on ne peut pas être dogmatique. Paul utilise souvent la phrase crainte et tremblement, et chaque fois ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est une attitude envers Dieu. Donc, état de faiblesse, ma condition envers les hommes. Crainte et tremblement, mon attitude envers Dieu. Je suis tellement petit, je suis pécheur, je suis révérend. Au Seigneur, je ne suis pas suffisant devant toi, aide-moi. Et vraiment, ce n'est pas le grand rhéteur, ce n'est pas le grand orateur, ni aujourd'hui, ni à l'époque. C'est justement le contraire. Quatrièmement, le style réduit de Paul. Nous avons vu le message réduit, la force réduite, et maintenant le style réduit. Verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, de la sophia grecque, la sagesse, la sophia grecque, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Tout simplement, Paul dit, j'ai rejeté un style de communication très éloquent, empli de finesse, de subtilité, d'arguments vraiment complexes et impressionnants. J'ai abandonné ça pour un style de simplement parler, de simplement dire un témoignage. C'était dur pour moi de faire ça parce que j'avais envie d'être convaincant de la manière toute humaine. Mais j'ai décidé de faire comme ça. Le plus grand prédicateur du 19e siècle, sans aucun doute, c'était un homme qui prêchait à Londres qui s'appelait Charles Spurgeon. Spurgeon a amené des milliers, des milliers, des milliers de personnes à Jésus-Christ. Il a dit à un moment donné, il ne passe pas une semaine où je ne reçois la nouvelle de quelqu'un converti par mon ministère. Et il était un homme très humble, le contexte dans lequel il dit, il se vantait pas. Ses sermons étaient tellement, les gens étaient tellement envieux des sermons de Spurgeon que le mardi, son sermon de dimanche était transmis par télégramme de Londres à New York pour être publié dans tous les grands journaux des États-Unis. C'était déjà publié dans les grands journaux d'Angleterre et dans d'autres pays. Et Charles Spurgeon a dit ceci. Il a dit, la perfection de la prédication, c'est de le dire. En anglais, il a dit, excusez-moi, the perfection of preaching is to tell it, to say it. En d'autres termes, le style parfait de la prédication, c'est le style conversationnel. C'est juste de le dire. Et bien sûr, quand on dit quelque chose de grand, on n'est pas comme ça. Bien sûr, quand je vous parle selon ce que j'ai à vous dire. Mais il n'y a pas un effort d'avoir des envolées d'embellissement oratoire. Voilà. Sauf cette phrase qui était un peu... qui en était une. Il a dit... pas les discours persuasifs de la sagesse, mais regardez bien, mais quoi? Regardez le texte. C'est le style réduit, hein? Il refuse une chose pour se limiter à une autre, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, le mot démonstration, apodexis en grec, était un mot qui était utilisé dans la rhétorique grecque. Ils utilisaient tout le temps, ces grands orateurs grecs, ce mot démonstration, et ça voulait dire... une preuve convaincante qui tranche l'affaire. Une preuve qui scelle l'affaire. Mais Paul dit, dans mon style, ce qui scelle l'affaire et qui convainc, ce n'est pas ma manière, mais c'est la puissance de l'esprit. Moi, je parle, et ce qui scelle, ce qui tire le filet, c'est l'esprit de Dieu. Paul, tout simplement, si vous voulez, et vous, à son exemple, et moi, nous devons vouloir simplement laisser la vérité parler pour elle-même. Je termine. Ça semble être complètement ridicule, Paul. Comment peux-tu venir, ou comment est-ce que vous pouvez vous limiter ainsi? Embrasser la faiblesse plutôt que chercher le pouvoir, embrasser un message, un témoignage réduit, un style épuré, et penser que vous allez voir des gens venir au Seigneur. Paul avait une complète confiance dans cette manière de faire. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'évangile lui-même est la puissance de Dieu. L'évangile du Christ crucifié, il plaît à Dieu de bénir juste l'annonce aimant, claire et simple de la nouvelle, de l'événement de la rédemption de son Fils, en expliquant qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il a fait ça. Comment donc venir à ce Christ? Il savait que la puissance devait être de Dieu. Il savait que lui-même, pour prêcher un Christ crucifié, il doit participer un peu à cet abaissement du Fils de Dieu. Le prédicateur doit être crucifié aussi. Le témoin doit être crucifié. Pour prêcher un Christ abaissé et crucifié, vous devez être vous-même dépouillé. Et vous ne devez pas vous en sortir très grand devant les gens. Comment est-ce que vous allez vous vanter et devenir grand en voulant prêcher la nouvelle que Dieu s'abaisse? Donc, nous devons être quelque part abaissés dans notre manière d'expliquer l'évangile. Je termine juste en disant que nous avons eu, il y a quelque temps ici, une conférence sur le « Est-ce que Dieu peut exister dans un monde de temps de mal et de souffrance ?» J'ai refait cette conférence à la demande d'une église aux États-Unis cet été, quand j'étais là. J'ai refait la conférence deux fois là-bas, dans des villes différentes. Et dans une ville, vous n'allez pas vous rappeler des 5 points de cette conférence, mais il y avait un point d'argument humain au début, l'apologétique. Et il y avait 4 points sur Christ crucifié. J'ai expliqué maintenant le sens biblique du mal en disant que Dieu n'est pas la source du mal, mais la cible du mal. Nous sommes la source du mal, c'est notre détournement de Dieu qui a amené le péché dans ce monde. que Dieu ne nous a pas abandonnés à notre mal et que Jésus-Christ nous délivre de ce mal en prenant le mal sur lui. Ça, c'est l'évangile. Et après la conférence, j'ai entendu dire de la part d'un chrétien qui était là et qui a amené un ami non-chrétien, il a dit, mon ami a dit, pour ton premier point, donc l'argument humain, j'ai essayé de montrer que le mal ne peut pas exister sauf si Dieu existe. Vous vous rappelez? Ok. Et il a dit, oui, ok, j'étais convaincu que le mal absolu, le mal ne peut pas exister sauf s'il y a un bien qui est la norme qui n'a pas été respectée. Et un homme qui n'est pas juste nos préférences, mais qui est au-dessus de nous. J'ai été convaincu, mais pourquoi est-ce que ce quelque chose qui est la source du bien et le standard, la norme du bien, pourquoi est-ce que ça doit être le Dieu chrétien? Vous voyez la limite de mon argument? J'ai pu amener cette personne par mon argument à une sorte de croyance vanille, sans parfum, dans un quelque chose qui est au-dessus de nous. Mais nos arguments humains ne peuvent pas montrer, révéler, ouvrir les yeux. Il y a un Dieu aimant. Il a montré en venant lui-même, en devenant homme, en endossant ton humanité, afin d'envahir ta culpabilité, de se charger, de prendre ça là de force sur lui et d'en mourir. Afin de te sauver. Ah ben là, c'est autre chose que mon petit argument, n'est-ce pas? Et gloire à Dieu, il nous donne un tel évangile à prêcher, que nous soyons reconnaissants. Nous allons chanter ensemble le chant numéro 48 dans le carnet noir.